fructueux, Seigneur mon Dieu. Je prie pour ta bénédiction sur sa vie, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit son bagage et que jour après jour, son onction, ton onction à travers sa vie puisse se manifester. Seigneur mon Dieu, on prie pour de la joie de service. Seigneur mon Dieu, on prie pour ta bénédiction. On prie pour une onction et on prie pour qu'il soit un instrument puissant et utile entre tes mains et que tous ceux qui veulent le bénir disent Amen et Amen. Sois béni, mon frère. Je vous invite à reprendre vos places. Alors, ce matin, je suis dans la joie de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Vous savez, des moments, il arrive que nous sommes dans une série de messages. C'est-à-dire que tu fais un message et puis le dimanche d'après, tu fais la suite. Ou alors, je me souviens, quand il y avait le matin et l'après-midi, tu faisais la partie A le matin et la partie B l'après-midi. Et là, en fait, je vais faire la seconde partie d'un message que j'ai fait il y a à peu près un an et demi. Alors, certains, vous l'avez complètement peut-être oublié. Certains, vous n'étiez pas là. Vous pourrez aller regarder ce message sur la chaîne YouTube. Et ce message s'intitulait « Continue d'avancer même quand l'enfer se déchaîne contre toi ». Et on avait vu ensemble, je fais un petit résumé en moins d'une minute, on avait vu ensemble que le peuple d'Israël, alors que ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves dans le pays d'Égypte, la Bible nous montre et nous dit qu'ils ont été libérés, que Dieu les a libérés. En une nuit, il y a un empire qui s'est effondré et le peuple s'est retrouvé devant la mer Rouge ou la mer des gens. Et la Bible nous dit que la mer s'est ouverte en deux et le peuple s'est retrouvé à l'abri de l'autre côté. Et pendant que Pharaon et la cavalerie de Pharaon essayait à leur tour de traverser la mer qui avait été partagée, la Bible nous dit que Dieu a refermé la porte, Dieu a refermé la mer Rouge et elle a englouti Pharaon et toute sa cavalerie. Et de l'autre côté, s'est retrouvé tout le peuple de Dieu, enfin sorti de leur condition d'esclave. Et là, au milieu de tout ça, il y a une femme qui va se lever, une prophétesse du nom de Myriam. Et la Bible nous dit que cette femme va sortir de ses bagages quelque chose de très intéressant. Elle n'a pas sorti un saucisson avec du vin rouge, elle n'a pas sorti du champagne, elle n'a pas sorti une arme de guerre. Vous savez ce qu'elle a sorti? Elle a sorti un tambourin. Pour ceux qui sont nés dans l'église, dans les églises, peut-être il y en a quelques-uns, vous vous en souvenez, de ces dames qui venaient à l'église avec leur tambourin. C'est des Myriam. Il y a cette femme, Myriam, qui est venue. On a dû, à un moment donné, parce que l'équipe de louange, c'était un peu compliqué d'harmoniser tout ça. Mais il y a cette réalité de cette femme, Myriam, qui a sorti de son bagage. Elle a sorti son tambourin. Et la Bible nous dit, elle s'est mise à danser. Elle s'est mise à chanter. Et toutes les femmes, et c'est très intéressant, on y reviendra pourquoi c'était des femmes, mais toutes les femmes ont rejoint Myriam. Elles se sont mises à danser. Elles se sont mises à chanter. Myriam chantait, les femmes répétait, et au milieu de cette plage de l'autre côté de la mer Rouge, elles se sont mis littéralement à danser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne dansaient pas en Égypte, elles ne dansaient pas parce qu'elles étaient déjà arrivées dans le pays promis, absolument pas, elles n'y étaient pas encore et ça va prendre quelques années même avant d'y être. La Bible nous dit, elle s'est mise à danser littéralement dans le désert. Et je crois qu'il y a un appel à apprendre à louer Dieu même dans le désert. Il y a un appel à, je crois que il y a tellement de chants de louanges magnifiques, extraordinaires, qui ont été écrits par des hommes et des femmes qui vivaient un temps de désert, qui vivaient un temps de difficulté, mais malgré le désert, ils ont pris la décision, néanmoins, de louer et d'adorer celui qui change les vies. Et il y a cet appel à louer et adorer, et même à danser dans le désert. Est-ce que vous le croyez ça? Que tous ceux qui croient qu'il y a un appel à louer Dieu même dans le désert, dites Amen, faites du bruit. Et on va regarder ce matin un message que j'ai intitulé « Danse dans ton désert ». Danse dans le désert, danse. Loue et adore Dieu, même si tu n'es pas encore dans le pays promis. Je crois que danse dans le désert, ce n'est pas juste une jolie phrase. Je crois littéralement que c'est une stratégie de survie, c'est une arme de guerre, c'est une déclaration prophétique qui dit que malgré ce que je vis en ce moment, malgré les combats que je suis en train de traverser, je vais chanter, louer, adorer et danser dans mon désert. Parce que mon Dieu est vivant et qu'il n'en a pas fini avec moi. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et sa grâce se manifestera avec puissance. Est-ce que vous le croyez? Alors, premièrement, ce matin, danse sur ce qui voulait te tuer. Regardez ce qu'il est dit, Myriam ou Marie, tout dépend des traductions. c'est le même prénom en hébreu. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, donc également sœur de Moïse, prit un tambour dans sa main. Toutes les femmes vinrent à elle avec des tambourins. Et en dansant, Marie répondait, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » C'est très intéressant cette histoire. La Bible nous dit qu'ils sont de l'autre côté. Ils sont sur la berge, de l'autre côté, sur la plage. Et là, elle sort son tambourin. Les femmes la rejoignent avec le tambourin. Et là, toutes les femmes se mettent à danser. Et ce qui est intéressant, c'est là où elles dansent. Elles sont dans un désert, mais pas que. L'historien Flavius Joseph dit, c'est partagé dans la tradition orale, et c'est même facile à comprendre en y réfléchissant un instant. L'historien nous dit ceci, c'est que les Égyptiens qui avaient été littéralement engloutis dans la mer Rouge, on sait que les corps remontent à la surface. On sait que le bois des chars, etc., tout ça, ça remonte à la surface. Et là, il y avait le bois, il y avait cette eau, il y avait ces cadavres, et certainement, à cause des vagues, il y avait sur la berge et sur la plage, il y avait ces cadavres qui étaient là. Il y avait ces bouts de bois de la cavalerie qui étaient là. Et là, Myriam va se mettre à danser. Ça peut paraître gore, hein. Ça fait un peu scène interdite aux moins de 18 ans. Ça fait un peu scène d'horreur. Mais la réalité est la suivante. Myriam a dansé avec toutes les femmes. Elles ont dansé au milieu des cadavres. Alors même si ça peut paraître gore, faut comprendre que ça représente quelque chose. Ça représente quelque chose de spirituellement très fort. En fait, ces cadavres ne sont pas monsieur, madame, tout le monde. Ces cadavres représentent des gens. Ces cadavres représentent 400 ans d'esclavage. Ces cadavres représentent des enfants qui sont morts, qu'ils ont tués, qui rentraient dans les maisons et ils tuaient les bébés. Ces cadavres représentent certainement des viols, représentent toutes sortes de torsionneurs et de torsionnaires et d'abuseurs. C'est ça que représentaient ces cadavres. Et quand ces femmes sont en train de danser dans ce rivage, elles sont en train de danser sur ce qui autrefois était en train de les détruire. Et je crois que mon Dieu, quelle que soit la chose qui en ce moment t'abuse, quelle que soit la chose qui aujourd'hui est complètement en train de t'anéantir, je crois qu'à un moment donné, quand la cloche de la liberté va retentir, tu seras capable de danser sur ce qui te détruit aujourd'hui. Je le crois. Je crois que mon Dieu est capable de faire une œuvre que tu n'as même pas conscience, ce qu'il est capable de réagir, ce qu'il est capable de faire. Qui aurait pu imaginer quelques semaines auparavant que littéralement Dieu les délivrerait à un tel point que Myriam et toutes ces femmes pouvaient danser sur ce qui les détruisait? Aujourd'hui, tu es à mille lieues d'imaginer que lorsque la grâce, la bénédiction et la délivrance de la part de Dieu, tu as mille lieues d'imaginer qu'un jour tu pourras danser dessus sur ce qui est en train de t'angoisser aujourd'hui. Parce que mon Dieu est grand et littéralement, mon Dieu est puissant. Et quand Myriam prend le tambourin, ce n'était pas juste par joie, c'était un acte de guerre. C'était une déclaration prophétique que ce qui me faisait souffrir autrefois ne me fera plus souffrir aujourd'hui. Il y a des choses, mes amis, qui ne changeront que lorsqu'on prendra nos tambourins, lorsqu'on va se connecter à Dieu et malgré le désert dans lequel on est, on sera capable de chanter, de danser, de louer et d'adorer Dieu et de déclarer, si tu peux mettre la slide, je refuse d'être déprimé, je refuse de pleurer, je refuse de tourner en rond dans cette maison l'air abattu. Je vais attraper mon tambourin et toi, diable, je vais danser sur ta tête. Oui, je vais danser et que tous ceux qui croient que Dieu est plus grand que le diable, dites amen, s'il vous plaît. Et là, la chose qui a été belle, c'est que la mer Rouge s'est refermée. Et vous savez, la mer Rouge, c'est pas juste refermée pour engloutir Pharaon et son armée. La mer s'est refermée littéralement comme une porte qui se ferme. Parce que il y a cette réalité chez nous, les êtres humains, je ne sais pas vous, mais en tout cas, c'est une grande majorité, on a souvent tendance à retourner sur ce qui nous fait souffrir. Et certainement que le peuple, on le voit d'ailleurs dans d'autres passages, un peu plus loin, le peuple aura toujours tendance à vouloir retourner en Égypte. J'aimerais te dire, Dieu ne veut pas que tu retournes en Égypte, c'est pour ça qu'il a fermé la porte. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, ne retourne pas en Égypte. Vas-y, dis-lui, ne retourne pas en Égypte. Tu as été trop loin dans ta foi chrétienne. Tu as été trop loin dans tout ce que tu as enclenché pour marcher avec Dieu, pour retourner un jour en Égypte. Alors j'aimerais vous dire que, waouh, un temps de louange règle le problème à jamais. T'as loué, t'as dansé au milieu du désert et ça suffit. Mais la réalité, on le sait, hein. On le sait que Aujourd'hui, on a remporté une victoire, mais demain, il y aura d'autres batailles. Est-ce que vous avez rendu compte de ça? Ce matin, il a plu, on a tous pris la pluie dans la tête. Hein. Les gentils et les pas gentils. Et hier, quand il a fait beau sur tout le monde. Et on sait que on vient de gagner une victoire. On sait qu'à un moment donné, on remporte une saison. Waouh, c'était bien. C'était compliqué avant. Et puis là, on prend un temps de remerciement, de gratitude envers Dieu. Mais je sais que après, il y a quand même le désert. Il y a quand même un désert que je vais devoir traverser. Il y a quand même une difficulté. Parce que la vie, c'est ça. Il y a des bonnes choses et il y a un temps pour tout. Et on sait qu'il y a des saisons qui sont là, bien, moins bien, génial, pas génial du tout. Et tu sais, et ta louange d'aujourd'hui devra demeurer demain. Et quand il va y avoir ces combats demain et les difficultés, alors j'aimerais te dire que la réponse, et c'est mon deuxième point, la réponse, c'est la croix. La réponse au combat que tu vas vivre ou la réponse au combat que tu es en train de vivre en ce moment, c'est la croix et ça restera toujours la croix. Je crois à cette puissance, à cette puissante réalité. En fait, ils sont sortis du désert et là, la Bible nous dit que pendant 3 jours, ils vont marcher en direction de ce que Dieu leur donne de marcher. Il y a cette colonne de feu qui leur montre le chemin et là, ils suivent et la Bible nous dit que pendant 3 jours, ils vont marcher. Mais souvenez-vous, ils sont dans le désert et dans le désert, il fait chaud et dans le désert, c'est aride. Et t'as besoin de boire. Et là, j'imagine, au bout de 3 jours, le peuple a soif. Et là, il voit au loin, waouh, génial, un point d'eau. Il voit un étang qui est là, et il se dit, vraiment, Dieu, waouh, tu es bon, tu es incroyable. Regardez ce qu'il est dit. Moïse fait partir Israël de la mer des joncs. Ils prirent, ou la mer rouge, ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel. J'aime bien le jeu de domino. On crie sur Moïse, Moïse crie à Dieu. Et l'Éternel lui indiqua un certain bois. Littéralement en hébreu c'est « etz », ça veut dire un arbre. Il lui montre un arbre. Qu'il jeta dans l'eau. Donc il a pris l'arbre et il a jeté l'arbre dans l'eau. Et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. En fait, quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu cette source d'eau, certainement, je les imagine dans un premier temps dans la joie. Waouh, enfin, on va pouvoir boire. Et là, ils se jettent dans l'eau. Et alors qu'ils vont pour boire, la Bible nous dit que l'eau était amère. Et on doit comprendre que amère ne veut pas dire juste elle n'avait pas bon goût. Tu sais, des moments, il y a des eaux, on le sait, il y a des endroits, tu bois l'eau, elle est pas bonne. Mais là, c'est pas ça. Elle est pas bonne, mais tu peux la boire, elle est potable. Là, ça veut dire qu'elle est amère dans le sens, tu la bois, tu meurs. Tu ne peux pas boire cette eau-là. C'est quelque chose qui est pas bon. Alors, quand le peuple s'est rendu compte de ça, la Bible nous dit, ils se sont mis à murmurer et à crier après Moïse. Tu sais, comme si c'était Moïse qui avait fait en sorte que la mer soit comme ça. Et là, ils se sont mis à crier après Moïse. Et là, Moïse s'est mis à crier après Dieu. Et en fait, je lisais ce texte et après Dieu lui a parlé et lui il a été parlé au peuple. En fait, je lisais ce texte et je le vois moi-même en tant que leader. Je suis en fait des moments leader, c'est un ministère d'écho. T'es style, le peuple te crie dessus, tu cries après Dieu, Dieu te dit un truc et tu le redonnes au peuple. Tu vois, il y a comme tu pas, c'est l'écho du peuple envers Dieu et l'écho de Dieu pour le peuple. Et là, Moïse se retrouve dans cette situation. Et c'est compliqué. Quand le peuple crie en règle générale, le leader souffre. Est-ce que vous le savez ça? Tous ceux qui sont leaders ici, de peu importe de quoi vous êtes leader dans votre vie, quand le peuple crie, le leader souffre en règle générale. Et là, Moïse a fait ce qu'il fallait et il a été vers Dieu. Et Dieu a donné une réponse, sincèrement, qui semble pas paradoxale, mais très bizarre. En fait, Moïse dit à Dieu, l'eau est amère. Et Dieu lui dit, prends un arbre. Est-ce que ça vous arrive parfois de poser des questions à Dieu et les réponses n'ont rien à voir avec vos questions? Ça vous arrive? Là, on est dedans. Là, on est complètement dedans. Tu sais, Seigneur, c'est amer là. Ok, prends un arbre. Jette-le dans l'eau. C'est quoi le rapport? Et Moïse va obéir à Dieu parce que je crois que quand nous obéissons à Dieu, même si on n'a pas compris la réponse, on s'aperçoit que dans le temps, c'est toujours la chose qu'il fallait faire. Est-ce que vous le croyez ça? Donc Moïse a pris l'arbre il l'a jeté dans l'eau, et l'eau est devenue douce, et ils ont tous pu se désaltérer. Et cette histoire m'a fait penser à une histoire du Nouveau Testament. Vous savez, cette femme, cette Samaritaine, qui avait été mariée avec cinq hommes. Et là, le gars avec qui elle était là aujourd'hui, c'était pas son mari. Et donc, elle était certainement critiquée. Il y avait certainement du murmure autour de cette femme-là. Et à tel point qu'elle avait, il y avait une honte qui était là. Ce qui faisait que lorsqu'elle allait chercher de l'eau, puiser de l'eau au puits, elle le faisait en pleine journée, en plein cagnard, afin de ne pas être vue par les autres. Parce qu'il y avait une honte sur elle, parce que les gens parlaient, etc. Et donc, quand elle arrivait là, la Bible nous dit que Jésus est arrivé. Jésus l'attendait. Et il y a eu une discussion extraordinaire entre Jésus et cette femme. Jésus va lui demander de l'eau. Puis là, s'ensuit toute une conversation. Et là, cette femme, Jésus va révéler sa vie. Et il va lui dire, tant que tu boiras de cette eau-là, ça va jamais te désaltérer. Ça va jamais bien aller dans ta vie. C'est pas cette eau qui va amener quelque chose de désaltérant dans ta vie. Il dit, mais si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui j'étais, si tu savais moi la source d'eau vive que je suis, alors tu me demanderais, donne-moi de l'eau et je te donnerais une eau et après tu aurais plus jamais soif. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous devons comprendre, quand je regarde cette histoire où ils ont prié, où Moïse a prié pour de l'eau douce, Dieu a répondu par un arbre. Et on doit comprendre que cet arbre, et tous les commentateurs bibliques sont d'accord avec ça, c'est ce qu'on appelle une épiphanie, c'est-à-dire une révélation de l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir et qui donne une révélation à la lumière de ce que Dieu a fait par la suite en envoyant Jésus sur cette terre. En fait, cet arbre, ce bois jeté dans l'eau amère qu'ils étaient en train de vivre, c'est une image du calvaire, c'est une image de la croix. Et je crois que quelles que soient les saisons amères dans lesquelles nous sommes, peut-être tu n'es pas dans une saison amère, peut-être demain tu seras dans une saison amère, alors ouvrez bien vos oreilles. La seule réponse, la seule et unique réponse qui vaille, ça s'appelle la croix. Quel que soit ce que tu es en train de te vivre, jette un arbre dans ton amertume. Viens au pied de la croix, fais comme cette Samaritaine, parce que la réalité, tu peux faire ce que tu veux, tant que tu ne seras pas connecté à la source d'eau vive, tu traverseras de l'amertume. Parfois, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais en fait, ce que tu fais, même si ça semble génial, en fait, ça t'apportera, surtout quand on est un enfant de Dieu. En fait, peu importe ce que tu fais, tant que tu n'es pas connecté à la source. Tu peux pas être un enfant de Dieu, être heureux et épanoui si tu n'es pas connecté à la source. Si tu ne pries pas. Il y a un appel à la prière, il y a un appel à se connecter à Dieu, il y a un appel. Vous savez, sincèrement, moi des moments je regarde, en toute honnêteté, on est tous pareils, hein. C'est pas parce que je suis devant vous que je suis différent. Et des moments dans nos vies, on a l'impression que ça va pas. Ça vous arrive aussi? Ça va pas. Ça vous arrive aussi? Ça nous arrive à tous. Et en fait, je m'aperçois que moi, les saisons où il y a de l'amertume, où je suis amer, je m'aperçois même, en tant que pasteur de tous les rendez-vous que j'ai pu faire, je m'aperçois que quand il y a des saisons de marat, quand il y a des saisons d'amertume, maintenant, je pose toujours la même question aux gens, et 90%, il peut y avoir des exceptions, ok, mais 90%, je pose cette question aux gens, et j'ai toujours la même réponse. Est-ce que tu as une vie de prière? Et 90% du temps, des gens qui sont dans l'amertume me disent non. Parce que je crois que quand tu mets un arbre dans l'eau amère, l'eau s'adoucit. Quand tu pries et tu te connectes à la source d'eau vive, cette femme essayait, à travers tous les hommes qu'elle a connus, cette Samaritaine, elle essayait de combler une soif au fond d'elle, mais elle avait beau passer d'homme en homme, elle n'était jamais désaltérée. Et Jésus lui a dit, tu peux continuer, ça marchera jamais. Mais si tu savais le don de Dieu, si tu savais comment moi je suis capable de te désaltérer, si tu savais comment moi je suis capable de rendre ta saison amère en eau douce, alors toi-même tu me demanderais de l'eau, toi-même tu viendrais puiser à la source d'eau vive. J'aimerais encourager tous mes amis ici, tous les bien-aimés de l'Église, à être des hommes et des femmes qui vont se connecter littéralement à la croix, qui vont se connecter à ce que Jésus a fait, parce que je crois que la réponse à l'amertume, c'était, c'est et ça sera toujours la croix. Alors quel que soit, si vous applaudissez, vous pouvez applaudir. Il y a quelques jours en arrière, un peu plus d'une semaine en arrière, avec mon épouse, on était à Rome. Et donc on est resté à Rome pendant 5 jours. Et donc Rome, c'est un musée à ciel ouvert, donc on a visité plein de choses. Et à un moment donné, un après-midi, on s'est dit, on va se faire une journée sur les traces de l'apôtre Paul. c'est que Paul a été à Rome, a été emprisonné à Rome, a été tué à Rome, son tombeau est à Rome. Et donc on s'est fait une journée comme ça, on a été visiter des catacombes, très très impressionnant comme lieu. Et il y a différentes catacombes sur Rome. Et puis on a été visiter, parce qu'on connaît le lieu de son tombeau, hein, ça a été mis quasiment au début du deuxième siècle, donc c'est une certitude à 99% que c'est vraiment son tombeau. Donc on a été visiter son tombeau, bien sûr les catholiques ont construit une église dessus, mais on était là, on a été visiter le tombeau, et on a fini la journée, on a été dans la prison, et là c'est une certitude hein, qu'il était emprisonné là, Mamertim, et on a été dans la prison qui est dans le forum romain, et on a été dans cette prison. Et lorsqu'on est arrivé dans cette prison, moi je me souviens juste avant, je m'étais dit, j'avais pris différents textes de ce que Paul a écrit quand il était dans cette prison. Et donc je me suis dit, quand on sera en prison, quand on sera dans cette pièce-là, moi dans ma tête, hein, vous savez, des moments on se fait des histoires dans la tête, on va être seul, je vais prendre les textes, on va s'immerger dans le lieu, je vais lire les textes de l'apôtre Paul qu'il a écrit dans cette prison, afin vraiment vivre une expérience très immersive. Et en fait, oublie, hein, au bout de 2 minutes, il y a 25 000 touristes qui arrivent, mais on a réussi à avoir 2 minutes quand même. Et lorsque je suis arrivé dans cette prison, j'ai fait une photo, si tu peux la mettre s'il te plaît. C'est ce que vous voyez à droite, c'est une photo que j'ai faite de la prison, là où il y avait l'apôtre Paul. Et lorsque j'ai vu cette prison, là où il a fini sa vie, hein, juste avant d'être décapité, lorsqu'on était dans cette prison, je me suis dit, waouh. Vous savez, nous, surtout là en Occident, puis surtout quand tu regardes un peu les modèles américains, tu sais, tu espères un jour finir ton ministère. Moi j'ai vu ça là aux États-Unis, ça se fait bien. Les gens, il y a une grande fête, une grande célébration, et puis là il y a un super film émouvant, et puis les gens finissent standing ovation, tout le monde t'applaudit, on reconnaît le travail fabuleux, extraordinaire, etc., etc., que tu as pu faire. Et là, lorsque j'étais dans cette prison et que je regardais la prison, je me suis dit, purée, ça n'a pas été la fin de l'apôtre Paul. Hein. Là, dans cette prison, il a écrit des épîtres, et c'est ça qui est fou. C'est que même là, écoutez bien, même dans ce lieu, il n'y a pas d'Alnuiten pour lui faire la louange, il n'y a pas Momentum Music, il n'a pas des starters le matin, il n'y a personne. Et là, dans ce lieu, écoutez bien, il a écrit des épîtres, c'est-à-dire des lettres, qui ont été une source d'encouragement pendant des siècles et des siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Et là, tu te dis, comment un homme qui a vécu, en plus il a vécu des choses dures, hein, Démas m'a abandonné par amour du siècle présent, Alexandre le forgeron m'a fait du mal, etc. Et tu dis, comment cet homme, il arrive dans la vieillesse, il arrive après avoir tout accompli, il est là-dedans, dans un lieu, dans un cachot, où le sol est froid, c'est austère, il y a de l'humidité, il y a presque pas de lumière, là vous le voyez pas. Pour l'occasion, là, ils ont fait un petit escalier, mais il n'y en avait pas. Le seul trou qu'il y a, il est au plafond. C'est le seul puits de lumière. Et c'est par là où on faisait descendre les prisonniers. Et tu dis, comment, au milieu de tout ça, l'apôtre Paul a été une source d'encouragement, de bénédiction pour tout le monde? Et je me souviens, dans la prison, là, j'ai lu des textes. Et c'est là où il a écrit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. C'est là, dans cette prison, où il a encouragé les gens, où il a encouragé Timothée, son fils, dans la foi. Ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, toi, t'es là, tu regardes la prison, tu dis, waouh! Comment Paul? Moi, sincèrement, je crois que je me serais écroulé dans cette prison, et que j'aurais pleuré, et que j'aurais été en colère contre tout le monde. Et tu te dis, comment l'apôtre Paul, dans cette prison, a été une des plus grandes sources d'encouragement qu'il ait jamais eu dans le monde. Et là, alors que j'étais en train de réfléchir, le souvenir d'un verset que l'apôtre Paul a écrit m'est revenu en mémoire. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à aimer Dieu dans la disette, dans les naufrages. J'ai appris à aimer Dieu dans les prisons. J'ai appris à aimer Dieu quand c'était compliqué. J'ai appris à l'aimer également dans l'abondance et quand tout va bien. J'ai appris à aimer Dieu quelle que soit ma situation. Pourquoi? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Le secret de l'apôtre Paul, mes amis, quand tu es à Mara, quand tu es dans une prison, le secret, c'est de puiser en Dieu la source d'eau vie qui est inépuisable, le secret pour traverser le temps, le secret pour traverser les combats, les difficultés, les amertumes, c'est d'être connecté à la source des sources, c'est d'être connecté à Jésus, c'est d'être connecté au pied de la croix. Alors quel que soit ce que tu peux vivre aujourd'hui, jette un arbre dans ton marat. Jette un arbre. C'est le seul, c'est la seule solution pour connaître la douceur malgré les combats et les difficultés. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, t'as compris, jette un arbre. Vas-y, dis-lui, jette un arbre. Jette un arbre. Jette un arbre dans ta souffrance. Je puis tout par celui qui me purifie. Je crois, mes amis, que la croix transforme les eaux amères en eau douce. Je le crois de tout mon cœur. Alors, quelles que soient les choses que tu vis aujourd'hui, quelles que soient les choses que tu vis, que tu es amer à cause de la drogue, tu combats avec l'alcool, tu as été trahi, époux, épouse, trahi par un ami, les combats que tu peux vivre de la vie de tous les jours, le patron est pas génial, les employés sont pas top, mon entreprise, je viens de connaître le chômage, le voisin, etc., etc., on connaît la vie. Quelle que soit l'amertume que tu vis, jette un arbre dedans. Mets-toi au pied de la croix, connecte-toi à la source d'eau vive. Si tu savais le don de Dieu qui te le dit, alors toi-même tu demanderais de l'eau. Toi-même tu voudrais te connecter parce que l'arbre peut tout transformer et cet arbre, c'est la croix du calvaire. Alors l'eau est devenue douce, amara, mais Dieu ne voulait pas spécialement qu'il reste amara parce que Dieu les appelait à aller ailleurs et il va les conduire dans un autre endroit afin de les stabiliser, afin de les ancrer. Il va les conduire dans une nouvelle saison afin qu'ils puissent se développer. Et je finirai avec ça, troisièmement et dernièrement, quand Dieu t'ancre dans la stabilité. Regardez ce qu'il est dit. Puis ils arrivèrent, donc le peuple, à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, où littéralement c'est 12 puits. Ce que je vous partage depuis tout à l'heure, le fil rouge, hein, peut-être certains vous l'avez remarqué, c'est l'eau et le bois. Et là, on arrive encore dans une troisième étape où encore on voit l'eau et le bois qui est là. Puis ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau, 12 puits et 70 palmiers. Et ils campèrent là près de l'eau. En fait, quand ils sont arrivés à Élim, et c'est ça qui est intéressant, ils sont entrés dans une saison de bénédiction qui avait déjà été préparée. Elle avait déjà été préparée parce que quelqu'un avait été là avant eux et avait creusé les puits. Vous savez que les puits, ce n'est pas un phénomène, sauf cas exceptionnel, mais ce n'est pas un phénomène naturel. C'est-à-dire que l'océan, les mers, les ruisseaux, les étangs, les mares, les fleuves, etc., ça c'est des phénomènes naturels. Mais un puits, c'est quelqu'un, un homme qui l'a creusé. Et lorsqu'ils sont arrivés, dans une saison où les choses avaient déjà été préparées, où ce n'était pas eux qui l'ont fait, mais ils ont pu bénéficier de quelque chose qui avait déjà été préparé au préalable. Quelqu'un avait creusé avant même qu'ils arrivent. Et Dieu va faire, et je le crois pour certains, et je le dis comme une parole prophétique pour quelques-uns dans ce lieu, je crois littéralement que Dieu va faire en sorte que tu rentres dans une saison où tu n'auras pas à te débattre de tout ton cœur et de tout truc pour essayer de t'en sortir. Certains ici, vous allez rentrer dans une saison où déjà les puits ont été creusés. Il y a même un passage dans la parole de Dieu qui nous dit que littéralement, que Dieu va te donner des maisons que tu n'as pas construites, qu'il va te donner des vignes que tu n'as même pas plantées. Et je crois, parfois c'est toi qui creuses, parfois c'est toi qui plantes, mais des moments tu arrives dans une saison où tu es juste au bénéfice de quelque chose qui a pris place dans ta vie, une bénédiction pour toi. Quand ils sont arrivés à Mara, ils ont dû jeter un arbre dans l'eau. Quand ils arrivent à Élim, les arbres sont sortis du désert. Et on sait que les arbres, 70 arbres, c'est pas rien quand même. Hein. D'ailleurs, quand je pensais à ça, je trouvais ça vraiment extrêmement intéressant. T'as l'impression, moi l'impression que j'ai, j'essaye toujours quand je lis la Bible d'imaginer, j'ai l'impression en fait qu'ils arrivent dans un camp de vacances. Il y a 12 puits, ça tombe bien, ils sont 12 tribus, un puits par tribu. Et il y a 12 sources d'eau vive, des puits, et là il y a 70 palmiers. Franchement, ça ressemble à une carte postale. En fait, après tout ce qu'ils viennent de vivre, Dieu les met à Élim. Dieu les met dans une saison, Et là, on le sait, ils n'ont pas planté leur toile de tente à Mara, mais là, ils ont planté leur toile de tente. Là, ils ont planté leur toile de tente pour s'ancrer dans la stabilité de ce que Dieu voulait. Et je crois vraiment, mes amis, que Dieu veut amener plusieurs personnes ici. Là, tu viens de passer par Mara, mais je crois de tout mon cœur que Dieu, maintenant, veut t'amener dans une saison Élim, afin que tu puisses t'ancrer, te stabiliser, afin que tu puisses littéralement être à l'ombre d'un beau palmier. Tu vas être à l'ombre d'une grâce que Dieu va te faire. Oui, Dieu a fait sortir des palmiers. Il a fait sortir des palmiers. J'ai demandé aux musiciens s'ils peuvent revenir, s'il vous plaît. Dieu a fait sortir des palmiers parce que je crois que quand tu es dans le désert, Dieu est bon. Quand tu es dans le désert, il prévoit des palmiers pour que tu sois à l'ombre. Vous savez que le désert, c'est un four, hein. C'est une fournaise. Et dans ce lieu, je sais qu'il y a des gens, vous venez de passer par la fournaise. Il y en a, vous venez de vivre un divorce. Il y en a, vous venez de perdre votre boulot. Il y en a, votre entreprise est en train de faire faillite. Il y en a, vous venez d'apprendre une sale nouvelle concernant votre santé ou la santé de quelqu'un que vous aimez. Il y a des saisons comme ça. On passe par une fournaise. J'aimerais te dire que quelle que soit la fournaise, Dieu prévoira toujours un puits et il prévoira toujours un arbre pour te faire de l'ombre. Parce que notre Dieu est celui qui prend soin de nous. Alors même si tu es épuisé, fatigué, au bout du rouleau, au bout du bout, est-ce que tu as besoin d'ombre ce matin ? Dieu est celui qui va te donner cette ombre. Je crois qu'il y a un arbre qui t'attend. Je crois qu'il y a une grâce littéralement qui t'attend. Alors certains vous posez cette question. On arrive au terme du message, j'ai posé cette question, mais ok, mais moi comment je fais pour vivre ça ? Ce repos dont tu es en train de parler, cette grâce Élim dont tu es en train de parler. Alors ouvrez bien vos oreilles, je vais vous expliquer comment vivre ça. Très simple, en résumant tout le message. Tu trouveras ce lieu de repos que tu attends le jour où tu apprendras à danser dans le désert. Tant que tu murmures, tant que tu n'es jamais heureux de tout ce que Dieu est capable de faire, tant que tu ne te connectes pas, tant que tu n'apprends pas à danser dans le désert, tant que tu n'apprends pas à mettre un arbre dans ton amertume, tant que tu n'apprends pas à te connecter à la source d'eau vive, tu resteras toujours à Mara. Mais le jour où tu vas apprendre à danser dans le désert, le jour où tu vas apprendre à te connecter à la source d'eau vive, alors tu vas sortir de Mara et tu vas te retrouver dans une saison Élim, à l'ombre d'un grand arbre, avec un puits déjà creusé, un puits que Jésus a déjà creusé pour toi. Et tu vas pouvoir littéralement te désaltérer. Et ce jour-là, ou aujourd'hui peut-être, tu peux dire, je vais prendre mon tambourin. Je ne sais pas s'il y en a, vous avez sorti votre... s'il y en a, vous êtes venu avec un tambourin. Mais tu vois, je vais sortir mon tambourin. Tout à l'heure, dans ma chambre, dans un bois, dans ma voiture, je vais sortir un album, je vais mettre Dan, je vais mettre Momentum Music, je vais mettre, je sais pas, de la batterie, j'en sais rien. Je vais sortir mon tambourin et je vais me mettre à louer, adorer Dieu. Et je vais me mettre à danser dans mon désert. Parce que je crois qu'il y a un appel à adorer et à célébrer Dieu même quand tu es dans le désert. Alors, j'entends un son de joie entrer dans ta maison. J'entends un son de joie arriver dans ton désert. J'entends un son de joie entrer dans ta chambre d'hôpital. J'entends un son de joie entrer dans ton mariage. J'entends un son de joie entrer dans ton entreprise. J'entends une louange incessante éclater. Myriam a sorti son tambourin. Et là, la Bible nous dit, très intéressant, la Bible nous dit que toutes les femmes l'ont rejoint. Et je me suis posé la question, pourquoi c'est les femmes qui l'ont rejoint ? Pourquoi pas les gars ? Je crois que souvent, nous les gars, on est là, en train dans nos comités, nos projets, nous on réfléchit à la prochaine, ceci, tac, comment tu fais ? T'as la boussole, sors-moi le plan, et tac, 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 on fait les projets. Mais les femmes sont beaucoup plus connectées à leur famille, beaucoup plus connectées, je parle bien sûr de manière générale, mais beaucoup plus connectées à une réalité. Myriam a compris quelque chose, les femmes ont compris quelque chose que les gars n'avaient pas compris. Elles ont compris qu'avant toute chose, avant même d'être des femmes, elles sont des mères. Et elles ont compris ce jour-là, quand elles ont vu les cadavres qui étaient à la surface de l'eau, qui étaient sur le rivage, elles ont compris que ceux qui les avaient martyrisés, que ceux qui les avaient fouettés, que ceux qui avaient violé, que ceux qui avaient commis toutes sortes d'actes ignobles, ignobles, elles ont compris une chose, mes enfants ne grandiront pas dans ce lieu. Mes enfants grandiront dans le pays promis. Et ces femmes, elles ont compris ce que les gars ne comprenaient pas. Alors ces femmes, elles se sont levées. Je suis maman et mon enfant ne grandira pas là. Mes neveux et mes nièces ne seront plus obligés de recevoir des coups de fouet pour fabriquer des briques pour les Égyptiens. Elles ont compris qu'il y a une génération d'enfants qui allait arriver et qu'on n'allait pas tuer, mais une génération d'hommes et de femmes libres. Alors les femmes se sont levées. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Alors les femmes se sont levées. Elles se sont levées avec leurs tambourins et elles ont commencé à chanter et à danser la délivrance de Dieu. Quel que soit, mon ami, ce que tu vis, alors lève-toi, chante et danse la délivrance que Dieu est capable de faire dans ta vie, et que tous ceux qui le croient disent amen et amen et amen. Alors j'aimerais qu'avec Dan, on puisse prendre ce chant d'appel qui s'appelle Égypte et qui dit Seigneur, tu combats pour moi. Est-ce que vous êtes prêts à le chanter, mais comme une déclaration prophétique? Seigneur, tu combats pour moi. Tu es celui qui m'aide à remporter la victoire. Tu as déchiré la mer, Seigneur, et tu m'aides à aller de l'autre côté. Est-ce qu'on le chante? On peut le chanter comme une déclaration prophétique? Alléluia. 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 Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui sont là. J'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais faire un appel pour ceux qui sont là, ceux qui sont devant un écran, peut-être juste avec des oreillettes. J'aimerais faire un appel. Alors que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel à danser dans le désert. À tous ceux qui aujourd'hui vont dire, je prends la décision. Même si ma saison n'est pas géniale, je ne suis pas dans le pays promis, je suis dans un désert. Je suis entouré de cadavres, mais je vais danser dans le désert. Tous ceux qui désirent prendre cette décision, juste dans quelques instants, pas tout de suite, mais dans quelques instants, je t'inviterai à lever ta main. Parce que j'aimerais prier pour toi, pour que Dieu t'accompagne dans cette saison. J'aimerais également prier pour tous ceux qui ont besoin de jeter un arbre, littéralement dans leur source d'eau amère, ont besoin de se connecter comme cette Samaritaine. T'as beau te fatiguer à aller au puits, tu te fatigueras et tu te fatigueras jamais. Mais ceux qui décident aujourd'hui de dire je vais aller me connecter à la source d'eau vive. Je vais prendre un temps de prière. Je vais me connecter pour être désaltéré à tous ceux qui désirent jeter un arbre dans la source d'eau amère. Je vais t'inviter dans quelques instants également à lever ta main. Et j'aimerais finir un dernier appel à tous ceux qui cherchent le repos, la stabilité, qui ont besoin d'une saison Elim dans leur vie. Alors quelle que soit la raison, quel que soit l'appel des trois appels que je viens de faire, si c'est ton cas et tu désires cette grâce, juste là où tu es, je t'invite à lever la main. Juste lève la main là où tu es, des mains partout à travers ce lieu qui se lève, certainement devant les écrans de télé. Je vais vous inviter à venir sur le devant. Tous ceux qui ont levé la main, venez sur le devant. Approchez-vous. Sortez des rangs. Venez sur le devant. Approchez-vous. Venez ici au milieu. Venez. Approchez-vous. Ne bloquez pas les artères du milieu là. Venez sur le devant. Venez. J'ai demandé à toute l'équipe pastorale, hommes, femmes, tous les leaders, groupe de maison, leader jeunesse, peu importe. Groupe de prière, intercession. Je vous invite à venir vers les gens. Gaffe et avec fille, mais je vous invite à prier pour les gens. On va pas être long, soyez pas long. 10, 15 secondes par personne. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mais on va prier pour que Dieu les bénisse dans le besoin qu'ils ont. Commencez à prier. Et pendant ce temps, tout le reste, ensemble. C'est pas juste, il se passe un truc et puis on est spectateur. Mais ensemble, on va continuer de déclarer ce chant. On va déclarer encore que le Seigneur combat pour nous, qu'il est celui qui nous fait remporter la victoire. Et là où tu es, commence à te connecter à la source d'eau vive. Commence à déclarer que Dieu est capable de faire ce que toi tu n'as jamais été capable. Commence à célébrer, commence à déclarer. Alléluia.
Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers.
Alléluia. Seigneur mon Dieu, je prie pour que ta grâce, comme on vient de le chanter, tu es venu dans notre Égypte. Tu nous as pris par la main pour nous conduire vers la liberté. Mais on sait que la liberté est un processus. On sait que ça nécessite un changement de mentalité. Ça nous demande d'apprendre à danser dans le désert et à nous connecter jour après jour à la croix. Je prie pour des hommes et des femmes qui vont se connecter à la source d'eau vive jour après jour. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié et que tous ceux qui croient que Dieu est le Dieu de la délivrance, dites Amen, poussez un cri, applaudissez.
Vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie de réagir par rapport à ce message, vous avez envie de le retrouver pour toutes les informations, direction notre site internet farfm.com. Pour la suite de la matinée, on se passe en revue les meilleurs moments avec Be Witness, Il Sang en français et tout le reste. Très très belle matinée à vous encore sur Phare FM.
jusqu'à ce qu'ils vivent à nouveau et que les vallées fleurissent comme une rose au soleil. Écoutez attentivement, il y a un changement dans l'air. La terre est aride, mais enfin la pluie arrive. Je chanterai encore. Prenez vie, que les eaux prennent. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Est-ce que tu attends qu'il te... Saint-Esprit est déjà là parmi nous. Hey, dans sa prête à réagir. Mais qui sait ce qu'il fera? Mais quand les quatre vents soufflent, mais la percée est en route. Je prophétiserai encore. Chaîne dans le tombeau et danse comme un enfant. Tu n'as plus à être prisonnier. Il y a une clé dans ta louange. Donc laisse le temps passer derrière toi et approche-toi de sa lumière. Tu y trouveras la liberté. Dis à ton âme, lève-toi.
Nothing but tears. I look around me, it's hard to see any hope down here. But when it looks like nothing can heal this broken land, I keep my head up, 'cause I know only one thing can. Nothing but Jesus. Nothing but Jesus. He's the only answer for. There's no other Savior strong enough to save us. So in a faithless world, I will put my faith in nothing but Jesus. No, nothing but, nothing but, nothing but, nothing but Jesus. our families. Nothing but Jesus can bring us peace. Nothing but Jesus can lift us out of depression and anxiety. Nothing but Jesus can break addiction. Welcome a prodigal back home. Nothing but Jesus is what we're missing.
Sur Phare FM, René qui nous interprète Nothing But Jesus. Et moi, je vous dis rendez-vous dimanche prochain, 7h midi, pour un temps de célébration à 10h30. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde.